Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Ah, il y a ces cantiques, ces vieux cantiques d'autrefois qui montent dans mon cœur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I can face tomorrow. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Je ne veux pas que tu les chantes, je veux que tu les cries. Je veux que tu les déclares. Que les anges au ciel l'entendent. Que le monde des ténèbres l'entendent. Que ceux qui veulent te voir baisser la tête l'entendent. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre.
Parce qu'il vit,
je n'ai rien à craindre.
Je n'ai rien à craindre.
Et lendemain.
Mes lendemains
sont assurés,
sont assurés.
Entre
tes mains,
tu tiens ma vie. Ce temps et l'éternité.
Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit.
Ces chants, c'est la déclaration que nous décidons de faire à cette heure. Parce que tu vis, parce que nous en sommes certains, parce que nous en avons des preuves. Nous avons décidé de ne pas avoir crainte. Et nous déclarons que nos lendemains sont assurés. Nous n'avons pas toujours besoin d'avoir tous les détails du lendemain. Quelquefois, nous avons seulement besoin de tenir la main de celui qui maîtrise demain. Et de marcher avec lui dans cet inconnu appelé demain. Et nous y allons avec assurance. Quelquefois avec tremblement. Quelquefois avec crainte. Mais nous y allons quand même. Seigneur, bénis-nous ce matin. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Fais surtout du bien à quelqu'un. Je te le demande au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse au chapitre 29, versets 15 à 35, assez longue lecture. J'aurais voulu synthétiser, mais je trouvais bon de donner toutes ces informations au départ. Et puis, la seconde portion des Écritures que nous lirons, c'est dans Ecclésiaste 11, verset 5. Alors, je disais Genèse, chapitre 29, verset 15 à 35. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille fidèle. Laban dit, un autre homme, reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et il fassa ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens de Dieu et fit un festin. Le soir, il laissa sa fille et l'amena vers Jacob, sa s'approcha d'elle. Il abandonna sa fille, s'il passe vente. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, notez déjà cela, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et a aussi accordé celui-ci, et lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, et elle enfanta un fils, elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi il lui donna le nom de Judas, et elle cessa d'enfanter. Ecclésiaste chapitre 11, verset 5. La Bible dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Ce matin, j'ai eu à cœur de parler sur le Dieu de Léa. Je dois avouer, en tant que prédicateur, c'est le genre de message que j'aime pas prêcher. Alors je disais, c'est le genre de message que j'aime pas prêcher. Mais quelquefois, en tant que prédicateur, nous sommes appelés à prêcher non pas seulement ce que nous voulons, mais ce que nous devons. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 27, l'apôtre Paul, prenant congé de l'église d'Éphèse, il dira, « Je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Je vous ai annoncé tout ce que Dieu veut que je puisse enseigner. » Et dans cet auditoire, ce matin, alors que je parle de Dieu, de Léa, j'aimerais dire, il y a des Léas passées ou présentes qui vivent des choses et des situations incompréhensibles et difficiles à digérer et difficiles à accepter. Des situations qui, humainement parlant, peuvent amener une personne à une remise en question de Dieu, de la parole de Dieu et de tout ce que la Bible nous apporte comme certitude. Mais deuxièmement, j'aimerais dire dans cet auditoire, il y a des futurs Léas, ceux et celles pour qui ce message n'a pas sa valeur aujourd'hui, ni demain, mais dans un avenir peut-être proche, ce message aura toute sa valeur. Ils ont 15, ils ont 20, ils ont 22 ans. Ils n'ont pas affronté quelquefois les réalités de la vie. Mais troisièmement, dans cette salle, en ce jour, et ici à Lisanga, il y a des personnes qui n'ont jamais été et ne seront jamais des Léas, parce qu'ils n'ont jamais côtoyé les réalités, n'ont jamais été en contact avec certaines choses que Léa a pu connaître. Mais avant d'aller plus loin et aller rentrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais émettre certains postulats qui nous serviront des lignes directrices et nous aideront à mieux comprendre ces messages. Le premier postulat, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions, n'est pas seulement un Dieu saint, fort, puissant, mais c'est aussi un Dieu intelligent. Et il arrive quelquefois que nous célébrons sa puissance, nous célébrons sa sainteté, mais il nous manque quelquefois de célébrer son intelligence. Un aspect de lui que nous ignorons. L'intelligence, c'est cette faculté qui fait que quelqu'un soit doué d'une fonction mentale d'organisation dans la pensée et dans les actes. Qui les rend capable de comprendre les choses, d'entrer dans les choses. L'intelligence est aussi définie comme étant la capacité qui peut avoir une personne qui les rend capable d'être douée des aptitudes à appréhender, à organiser les données d'une situation, à mettre en apport les procédés à employer avec le but à atteindre et même les moyens ou les méthodes à choisir pour arriver à la solution. Dans Job au chapitre 12 au verset 18, il est dit « En Dieu réside la sagesse et la puissance, les conseils et l'intelligence lui appartiennent. » Il a aussi l'intelligence entre ses mains. Dans Psaume 136 au verset 5, parlant de notre Dieu, le psalmiste dit celui qui a fait les cieux avec intelligence. Il a fait les cieux, mais il a utilisé cet attribut, l'intelligence. La version Tob dit, il est l'auteur intelligent des cieux. Il a fait les cieux, mais avec intelligence. Dans Psaume 147 au verset 5, le psalmiste ajoute, notre Dieu est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Son intelligence n'a point de limite. Le deuxième postulat que j'aimerais mentionner, c'est que l'humain ne peut pas toujours sonder, appréhender et comprendre totalement ce que Dieu fait, à moins que lui-même, par sa grâce, ne le lui révèle, à moins que lui-même lui ouvre un pan. Dans Isaïe chapitre 40, au verset 8, les prophètes déclarent, on ne peut sonder son intelligence. On ne peut rentrer dans tout ce qu'il fait. Et les passages que nous avons manqué de lire tout à l'heure, Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 5, les sages disent ceci, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Nous ne maîtrisons pas sa manière de travailler, nous ne maîtrisons pas ses méthodes. Dans Isaïe 55, au verset 8 à 9, il dira encore, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si quelqu'un est d'accord, qu'il dise Amen. Le troisième postulat que je voudrais mentionner, c'est que Dieu est un Dieu souverain. Un Dieu souverain. Parler de souveraineté, c'est parler de quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui règne en maître, qui se gouverne lui-même et ne relève pas d'une autre autorité supérieure, qui ne reçoit des injonctions des personnes dont les actes et les décisions sont sans appel, qui juge en dernier ressort. Notre Dieu est souverain. Et chez les Juifs, les mots qui marquent cet aspect de sa personne est Adonai. Quand on parle d'Adonai, on veut dire celui qui est au-dessus de tout. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, l'apôtre l'appelle celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa propre volonté. Celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa propre volonté. La version Tob dit celui qui mène tout au gré de sa volonté. Il fait les choses quand il veut, comme il veut. Les psaumes 115, verset 3, ainsi que les psaumes 135, le verset 6 confirme cela. Le 115:3 dit, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Et des fois, dans ce qu'il veut, ce n'est pas ce que nous voulons. Dans le 135:6, il est dit, tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Quatrième postulat, c'est que dans sa souveraineté, il ne demande pas toujours la vie de l'homme. Quelquefois, il lui impose des choses. Il lui impose des voies. Il lui impose des chemins, et des fois des chemins que l'homme ne veut pas, n'aime pas. Dans Isaïe 45, au verset 9, ainsi que dans Romains chapitre 9, au verset 20, cela nous est montré. Isaïe 45, 9 dit, « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Où est-ce que tu veux m'amener ?» Romains 9, 20 dit, « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ?» Les vases d'argile dira-t-il à celui qui la forme, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Cinquième postulat, c'est que ce que Dieu connaît et comprend dès le début et même avant, l'homme ne les comprend qu'après. Et même des fois, il ne les comprendra jamais. Dans Genèse chapitre 45, au verset 5, c'est après qu'il ait compris, comme le pasteur Mboumatoms l'a prêché sur le puzzle, il a compris par tous les parcours ce que Dieu voulait faire, que Joseph pourra dire à ses frères, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie, j'aime ce qu'il dit que Dieu m'a envoyé. Mais il comprend que Dieu l'a envoyé une quinzaine d'années après. Au départ, il voyait la méchanceté des hommes. Au départ, il voyait tout ce qui peut être de mauvais de la part de l'homme. Dans Job 38, au verset 2, alors qu'il comprend tout, et que Job ne comprend rien, mais veut lui poser des questions, Dieu dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Pourquoi? Parce que Job a posé la question à Dieu, pourquoi tu fais ceci? Et Dieu s'est mis à poser à Job des questions, il lui a posé 66 questions. Où étais-tu quand j'ai créé les cieux? Où étais-tu quand j'ai donné la limite aux eaux de la mer? En disant, vous irez de là jusque là. Dans Job 42, verset 3 ainsi que verset 5, Job, après qu'il ait compris, il dira, oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Sixième postulat, c'est que les buts et les objectifs de Dieu sont plus importants que les personnes. C'est-à-dire, Dieu peut ignorer quelquefois ce que nous ressentons. Il peut ignorer nos larmes, parce que derrière cela, il a des buts plus élevés. Et comme nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons comme point focal notre souffrance, notre malheur. Dans Ésaïe chapitre 53, au verset 5, ainsi qu'au verset 10, il est dit de Christ, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous sommes, il a dû souffrir. Mais dans cette souffrance, il y avait un but derrière. Lui, il a souffert, il a peiné. Et j'aime encore le verset 10, un passage difficile, non seulement à lire, mais à prêcher. La Bible dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. J'aimerais dire, il y a des choses qui plaisent à Dieu et qui ne nous plaisent pas. Dieu a trouvé bon de les briser, mais pas la souffrance. Mais j'aime, après, il est dit, après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité nombreuse et il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et les passages que nous avons lus au départ nous parlent, en résumé, d'une jeune femme, Léa. Et comme je le disais ce matin, j'aimerais parler du Dieu de Léa. J'aimerais dire que les Léa ont un Dieu. Les Léa, des personnes qui passent par des situations difficiles. Et par rapport aux Léa, j'ai un certain nombre de choses que Dieu m'a mis à cœur de mentionner. La première des choses qui caractérise les Léa, c'est qu'elles ont l'impression que Dieu est injuste. Les Léa ont l'impression que Dieu favorise certaines personnes, aime plus certaines personnes que d'autres. Soit elles les pensent et les disent, soit elles les pensent, ne les disent pas, mais ne les pensent pas moins. Combien de fois, on a l'impression que Dieu est Dieu, mais il est Dieu pour les autres. On a l'impression que Dieu agit, mais il agit chez les autres. On se demande, quel genre de prière que les autres font, que moi je n'arrive pas à faire. Qu'est-ce qui fait qu'eux obtiennent telle chose? Nous avons le même Dieu, la même Bible, et nous faisons des fois les mêmes techniques, si je peux parler ainsi. Les Léa ne comprennent pas. Genèse chapitre 29, versets 16 à 17, nous parle de l'aspect physique de Léa. La Bible dit, or Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa, qui veut dire fatiguée, qui veut dire vache, sauvage. Et la cadette s'appelait Rachel. Mais écoutez ce que le verset 17 ajoute. Léa avait les yeux délicats. D'autres versions disent, des yeux qui ne voyaient pas bien. Une autre version encore dit, elle avait une mine chétive. D'autres versions disent encore, elle avait des yeux ternes. Mais en même temps, la Bible poursuit en disant, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Comment le même Dieu peut faire quelqu'un carrément la représentation de la beauté? Et à côté, quelqu'un qui est comme une caricature. On se demande, est-ce le même Dieu qui nous a créés? Pourquoi il m'a fait moi comme ça? Et elle, l'une, les yeux délicats, l'autre, tout est presque parfait. Ah, c'est merveilleux quand on est Rachel. On bénit Dieu. Mais ce n'est pas facile quand on est Léa. Et c'est même mieux quand on est Léa et que toutes les autres sont des Léa aussi. Mais le plus difficile, c'est quand on est Léa et à côté, il y a des Rachel. C'est bon quand tu passes par la crise et tu vérifies, tout le monde manque aussi. Mais le plus difficile, c'est quand toi tu manques, les autres mangent et mangent à l'excès. Tu as difficile à trouver un 10 dollars. Tu entends quelqu'un me dire, frère, Dieu, Jéhovah Jireh, j'ai obtenu un marché de 15 000 dollars. Et Sengoto, et Sengoté. Tu dis, Sengo. Au fond de toi, tu dis, Baninga. Ah, mais j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui fait Rachel, c'est aussi le Dieu qui fait Léa. Pourquoi il est fait, je ne sais pas. Genèse chapitre 29, au verset 18, nous parle du choix de Jacob. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Déjà, elle était handicapée par l'aspect physique. Et quand ces jeunes hommes atterrissent dans leur famille, ses yeux ne sont que sur Rachel. Elle a l'impression de faire partie du décor. Elle n'est pas regardée. Et la fourchette allant de Genèse 29, 23 à 25 nous montre la tricherie de Laban, moyen qu'il a utilisé pour que Léa ne reste pas une vieille célibataire. Il veut sauver les apparences et il impose une coutume. On ne peut pas prendre la cadette sans que l'aînée ne soit mariée, mais sans résultat. Parce que quand il a fait cela, le lendemain, Jacob s'est rendu compte, rejet. C'est comme s'il a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez donné? Genèse 29, 32 à 34 nous montre sa quête d'être aimé, mais sans résultat. Elle est presque greffée dans un couple où elle ne devait pas être. Le verset 31 nous fait déjà un clin d'œil sur la façon dont Jéhovah traite Léa. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde tandis que Rachel était stérile. Le verset qui suit dit, Léa devint enceinte et elle enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Pour dire on ne l'aimait pas. En quête d'affection, en quête d'amour. Le verset 33 dit, elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci et lui donna le nom de Siméon. C'est-à-dire même Dieu au ciel a entendu. Ce n'était pas visible, c'était audible. Pourquoi? Parce que les compliments n'allaient que vers Rachel. Le verset 34 dit, elle devint encore enceinte. Elle enfanta un fils et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna les noms de Lévi. En quête d'affection, elle cherche par tous les moyens à être aimée. Ah, combien Léa souffre. Deuxième chose qui caractérise Léa sont des borgnes spirituelles. C'est-à-dire, elles ont une vue bouchée. Elles ont une vue limitée. Elles voient simplement dans une petite direction. Les Léa ont l'impression que Dieu serait Dieu si Dieu fait certaines choses. Pourquoi? Parce qu'elles ont des besoins essentiels. Pour Léa, Dieu ne sera Dieu que si on m'aime. Mais tellement focalisé sur un aspect, quand Dieu fait d'autres choses, elles ne voient pas. Genèse 29, 31, la Bible déclare, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dieu essaye même d'égaliser. Dieu essaye d'équilibrer. Mais les Léa sont tellement focalisés sur l'amour. Quand même, le fait que Dieu les visite par la fécondité, ça leur dit rien. C'est comme si elle voulait dire, j'aurais préféré qu'on ne m'aime pas. J'aurais préféré ne pas avoir d'enfant. Et que l'on puisse m'aimer. Combien de fois nous sommes focalisés sur une chose. Et pour nous, Dieu sera Dieu quand il fera cette chose. Comme cette jeune fille qui pria avec moi il y a plusieurs années. Pasteur, prie, je ne veux pas être une vieille célibataire. 27 ans, toujours personne. 28 ans, 29 ans. Hein, les jours de ses 30 ans, je la vois rentrer dans mon bureau comme une fusée. Pasteur, Dieu a ouvert la mâchoire du frère. Il a fini par parler. Elle s'est mise à rouler par terre en criant à Lingala, Azanzambe, Azanzambe, Azanzambe. Je l'ai accompagnée un peu durant une vingtaine de minutes. Quand elle a fini, j'ai dit Azalaki Nzambe avant. Souvent, nous pensons que Dieu devient plus Dieu quand il a fait quelque chose. Dieu n'est pas moins Dieu avant et plus Dieu après. Mais les Rachel sont bornes. Et plutôt les Léa sont bornes. Les Léa disent Dieu ne sera Dieu que s'il fait ça. Dieu ne sera véritablement Dieu que s'il me donne un emploi. Dieu ne sera véritablement Dieu que s'il ouvre telle porte. Ah, mais j'aime les amis de Daniel. Quand on les a amenés devant le feu, ils ont dit notre Dieu peut nous délivrer. Et même il nous délivrera certainement. Mais ils disent même s'il ne le fait pas. C'est-à-dire ils ne réduisent pas leur Dieu à une chose. Mais pour les Léa, Dieu n'est Dieu que s'il agit dans une certaine direction. Dans Juges, chapitre 6, au verset 13, alors que l'Éternel garde quand même son peuple malgré l'oppression, alors que l'Éternel pourvoit afin que ce peuple puisse planter, et l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Écoutez sa réponse, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Dieu n'est plus Dieu parce que ça s'est arrivé. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les choses qui peuvent arriver, Dieu reste Dieu. Ne reste pas obtus, ne reste pas borné dans une certaine direction. Seulement, tu qualifieras Dieu de Dieu puissant, puissant, parce qu'il aura fait telle chose. Dieu n'est pas limité à ce que je vois ou peu qui est devant mes yeux. Troisième des choses que j'aimerais mentionner concernant les Léas, elles ont l'impression que Dieu, malgré leur zèle et leur consécration, ne les paye pas en retour suffisamment. Dieu les laisse être humiliés au plus haut degré. C'est comme s'ils disent, s'il m'aimait, pourquoi il permet que de telles choses m'arrivent? Pourquoi il permet que je passe par un tel chemin? Il est dit des deux, ce sont les commentateurs et même les rabbins juifs qui enseignent que Léa a été consacrée à Dieu. Il semble qu'elle aimait chanter pour Dieu. Et que Rachel, c'était quelqu'un qui ne s'intéressait pas beaucoup aux choses spirituelles. Mais alors que celle qui s'intéressait aux choses spirituelles ne vivait rien, celle qui n'avait aucun intérêt pour les choses spirituelles était aimée. Dans Genèse 30, verset 6 jusqu'au verset 13, la Bible nous montre l'instant où sa sœur, qui n'avait pas d'enfant à un moment, commence aussi à être visitée. C'est vrai au départ, au travers de l'une de ses servantes. Écoutez ce que la Bible dit au verset 6. Rachel dit, parce qu'elle vient d'avoir un enfant au travers de sa servante, « Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi il appela ce fils du nom de Dan. Auparavant, il était la seule à avoir. Mais ça la rassure à un moment. Mais voilà, Rachel commence aussi à avoir des enfants. La Bible poursuit en disant, « Bilha, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un second fils à Rachel. » Et Rachel dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et je l'ai vaincue. » Elle appela du nom de Nephtali. J'aimerais contextualiser ça. C'est comme si vous étiez ici à Kinshasa. C'est comme si Rachel s'élève un jour et dit, « Eh, Bolobara, trop beau, tu perds. » Pourquoi c'est qu'à Binomoko? Vous parlez trop. Dieu nous a visités aussi. Il dit, « J'ai lutté divinement contre ma sœur et je l'ai vaincue. » Il dit, « Seigneur, on m'a vaincu en beauté. On m'a vaincu en affection. Le seul domaine où j'ai gagné un peu, c'était la maternité. » Et là, elle égalise. Mais pas directement. Mais elle commence à avoir des enfants par quelqu'un d'autre. Ah, combien les Léa souffrent. Malgré leur zèle, elles ont l'impression que Dieu n'agit pas. Dieu, elle n'intervient pas. Le prophète Élie réclamera les droits de son zèle. Il dit, « J'ai déployé mon zèle. Mais voilà les résultats que j'ai obtenus. » Jean-Baptiste arrive un jour, alors qu'il a travaillé pour le Seigneur, il est allé dans les déserts prêcher. Il a donné le meilleur de son temps. La Bible nous dit, un jour il a rassemblé ses disciples. Il dit, allez demander, est-il celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre encore un autre? J'aime beaucoup, c'est mentionné dans Matthieu chapitre 11, mais j'aime bien ce qui est dit avant. Écoutez ce que Matthieu 11, versets 2 à 3. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, il a entendu, cet homme, il guérit les malades, cet homme, il purifie les lépreux, cet homme. Et il dit, et moi qui ai engagé mon zèle pour le présenter, moi qui ai dit, voici la voix de celui qui crie dans le désert, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il envoie une délégation. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Ah, c'est pas facile d'être Léa. On a l'impression que Dieu ne nous paye pas en retour comme on aurait dû être payé. Quatrième chose qui caractérise les Léas sont instables. Les Léas sont inconstantes. Manquent de constance. C'est-à-dire, elles passent toujours par des extrêmes. Elles ne sont jamais mesurées. Elles ne sont jamais équilibrées. Les Léas, lorsqu'elles doutent fort. Mais lorsqu'elles croient aussi, elles croient fortement. Les Léas ne sont jamais équilibrées, pas mesurées. Dans Genèse 29, au verset 35, la Bible dit, elle devait encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Waouh! La Léa est au pic de sa foi. Je ne veux plus me plaindre. Je ne veux plus jeter le regard à côté. Cette fois-ci, je louerai Dieu. Ça, ce sont ce que les Léa peuvent faire. Cette fois-ci, je ne veux plus me poser des questions. Cette fois-ci, je ne veux plus me plaindre. C'est pourquoi elle donna à cet enfant le nom de Judas. Et là, je me réouvre une parenthèse que je me refermer rapidement. Louer Dieu est un choix. et même un choix volontaire qui ne va pas toujours de pair avec ce que nous ressentons. Il dit, cette fois-ci, je le louerai. Je prie que ce matin, quelqu'un décide, malgré ce qui se passe, dit, cette fois-ci, je vais le louer. Quel que soit ce qui se passe, je veux le louer. Dans Psaume 103, verset 1er, le psalmiste se dit, mon âme bénit l'Éternel. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Vous savez, l'homme est un être tripartite. Il arrive des fois, il y a lutte dans les trois parties de l'homme. Il y a une partie qui est prête à louer, l'autre est rebelle. Il arrive des fois, l'esprit est disposé, mais l'âme dit non. Moi, je n'ai pas mangé, toi, esprit, tu veux me pousser à louer. Et le psalmiste dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et là, Léa, au pic de sa foi, bénit Dieu. Cette fois-ci, je vais le louer. Cette fois-ci, je vais chanter. Cette fois-ci, je vais célébrer. Dans Samuel 27, au verset 1er, la Bible nous parle aussi de quelqu'un qui, comme Rachel, comme Léa plutôt, est passé par un moment de doute. David, il s'appelait. Il avait reçu l'onction royale. Mais il passe par des situations difficiles. Lui-même dit, David dit en lui-même. Combien de fois nous disons des choses en nous-mêmes? David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il y a des certitudes qui ne sont pas certitudes. Et si elles sont certitudes, elles ne sont que pour nous, mais pas pour Dieu. Car Dieu reste Dieu, malgré ce que nous ressentons. Cinquième des choses, c'est que les Léa durent plus que les Rachel. Malgré leurs souffrances, malgré les problèmes par lesquels elles passent, les Léa durent plus longtemps que les Rachel. Genèse 35, au verset 9, 19, nous parle de l'instant où Rachel, la bien-aimée de Jacob, meurt entre Bethel et Mamré. C'est la personne que Jacob aimait le plus. Et Léa, malgré qu'on ne l'aimait pas, elle est restée longtemps à côté de cet homme. À un moment, Dieu a enlevé l'adversité. Et Léa est restée jusqu'au soir de la vie de Jacob. J'aimerais dire à une Léa, Dieu ne t'abandonne pas. Les Léa durent plus. Et Genèse 46, 8 à 27, nous montre l'instant où nous, la délégation de Jacob entre en Égypte. Certains commentateurs disent qu'elle est rentrée avec. Elle faisait partie de la délégation. Genèse 49, verset 31, nous montre l'instant où elle est morte. Certains disent qu'elle est morte avant qu'il n'ait quitté Canaan, mais la plupart des commentateurs disent qu'elle est morte en Égypte. On est allé l'enterrer dans les champs achetés par ses arrière-grands-parents. Les Léa durent plus que les Rachel. Sixième et avant-dernière chose, c'est que les Léa sont enceintes des grandes choses qui sont plus grandes qu'elles et qu'elles ignorent. Les Léa sèment dans les larmes là où d'autres moissonneront avec chant d'allégresse. Elles sont enceintes des choses plus élevées. Les Léa sont un peu comme l'apôtre Paul a dit, la mort agit en nous afin que la vie agisse en vous. Les Léa expérimentent la mort afin que d'autres plus tard expérimentent la vie. Les Léa vivent des choses négatives afin que d'autres plus tard vivent des choses positives. Les Léa passent par les chemins mentionnés par Samson. Quand Samson donne cette énigme, il dit de ce qui mange est sorti ce qui se mange. J'aimerais dire à quelqu'un, de cette situation qui veut te manger, sortira quelque chose que tu vas manger. Les Léa sont comme les personnes que Hébreux 11, 13 ainsi que 39 mentionnent. Ces deux passages sont bizarres. Écoutez ce que la Bible dit. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur a été promis. J'aimerais m'arrêter un moment. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. La Bible dit, ils n'ont pas obtenu ce qu'il leur avait été, mais pourquoi les promettre? Dieu a dit. Mais finalement, au soir de leur vie, non, rien vu. Ils sont partis en croyant que celui qui avait fait la promesse n'est pas fidèle. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. C'était le verset 39. Mais le verset 13 dit, c'est par la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais la Bible dit, ils les ont vus et salués de loin. Mais ce qui me choque, c'est toujours les choses qui l'ont été promises. Comment Dieu peut promettre et savoir qu'il ne va pas accomplir? Ah, ça, les léons difficiles à saisir cela. Les léons difficiles à appréhender cela. L'Éléa se demande, est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu? Mais Dieu, comme je l'ai dit, fait de Léa des personnes enceintes des choses plus grandes. S'il est vrai que Léa et Rachel comptent dans l'histoire d'Israël, Léa occupe une place spéciale. Ruth chapitre 4, verset 11, part des propos adressés par le peuple à Bethléem, à Boaz, au moment où il accueille Ruth comme épouse. Écoutez ce que le peuple a dit à Boaz, que l'Éternel rende ta femme qui entre, plutôt la femme qui entre dans ta maison, semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la nation d'Israël. Malgré les choses négatives par lesquelles elle est passée, elle fait partie des piliers dans l'histoire d'Israël. Elle n'en avait pas l'impression. Elle s'est demandé par quoi suis-je en train de passer. Mais Léa, elle était enceinte de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle n'a pas palpé, quelque chose qu'elle n'a pas touché, quelque chose qu'elle a sûrement contemplé seulement dans la gloire. Léa a eu à produire 3 enfants qui ont fait la différence parmi les 12 enfants que Jacob a pu avoir. Tous les enfants, chacun a pu faire quelque chose, mais Léa a produit 3 enfants particuliers. Le premier enfant, c'est Issachar. Dans 1 Chroniques chapitre 12, verset 32, la Bible nous parle d'une tribu spéciale, avec des aptitudes spéciales, qui a joué un rôle spécial à côté du roi David quand il a accédé à la royauté. La Bible dit des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils avaient l'intelligence du temps. C'était des clairvoyants. Mais c'était des produits de Léa. Je me redis, quelquefois Léa souffre, mais ce que Léa ne sait pas, c'est que dans son sein, elle a Issachar qui va accomplir de grandes choses, qui va accomplir des choses merveilleuses. J'aimerais dire à une Léa en ces jours, Dieu est plus intelligent que toi. Dieu voit plus loin que toi tu ne vois. Deuxième merveilleuse tribu que Léa a produit. Deutéronome 33, verset 10 à 11, nous parle de la tribu de Lévi, à laquelle fut confié les sacerdoces. Ils avaient la responsabilité et de l'enseignement et du service dans les temples. Pas de Rachel. Lévi, d'où viendra Aaron et ses fils, produit de Rachel. J'aimerais dire, produit plutôt de Léa. J'aimerais dire au Léa, vous avez un Dieu. Vous avez un Dieu. Un Dieu qui ne vous laisse pas. Jésus-Christ parla un jour à ses disciples. Il dira, en ceci, ce que le proverbe dit est vrai. Un est celui qui sème, mais autre est celui qui moissonne. Moi, j'aime être celui qui sème et celui qui moissonne. J'aime que tout vienne chez moi. Mais quelquefois, dans la stratégie de Dieu, l'un va s'aimer et l'autre va moissonner. Mon pasteur me disait, quand j'étais jeune dans les ministères, il disait, Roland, si dans l'œuvre de Dieu, tu souffres sans résultat, sache qu'après toi, il y aura des gens qui auront des résultats sans souffrir. Mais il est allé plus loin, il a ajouté et dit, si tu arrives dans l'œuvre de Dieu, tu as des résultats sans souffrir, sois humble. Sache qu'avant toi, des gens ont souffert sans résultat. Que des gens qui ont été des piétons professionnels, mais leurs enfants ne les seront jamais. Ah, moi, je peux me rappeler de tout ce qu'il y avait comme raccourci. De l'ozone, en passant par les cercles hippiques, Chani Metal, ou arriver à l'Athénée de la Gombe. Combien de fois les amis ne m'ont-ils pas dépassé en véhicule en disant « Roland, ligne 11, les eaux, ça l'a bien !» Parce que les bus à l'époque s'arrêtaient au 10 et nous, c'était la ligne 11. Et quand je revois ces petites aller à l'école, et des fois, elles disent « Non, non, nous n'irons pas avec ces véhicules qui fument. » Je dis « Ah !» Elles, au moins, elles ont les choix. Est-ce que moi, j'avais les choix? Les rares fois où j'ai pu monter de temps en temps dans un véhicule, mon père avait une vieille voiture Volkswagen. Et ces VO étaient compliqués. il tombait en panne toujours devant Lisette Obongisa. Vous savez, à l'époque, vous avez 16, 17, 18 ans, vous commencez à faire les fierros devant les jeunes filles. Et quand vous arrivez là, ça commence avec tout, 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 tout. Et nous, déjà, quand on arrivait là, mon jeune frère, mon Tobizame, on les appelait à l'époque Bamoumi, hein, des Bamoumi Baza. Et Koufa, tant, tant, tant. Et quand on traîne, c'est rien. Qu'est-ce que vous attendez pour descendre? Et on était obligé. Et on le maudissait. Quand le père des autres étudiants avait des vécus. Ah, je me souviens des jours, il a dit non, ce vécu ne va plus sortir. Nous avons crié Alléluia. Un est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Et quelquefois, Dieu laisse les laits à s'aimer là où d'autres vont moissonner. Mais la Bible ne va plus loin. Dans Genèse 49, verset 8 ainsi que verset 10, la Bible nous parle de la grande bénédiction prononcée par Jacob avant de mourir. Et là, il parle d'une des tribus sortie encore des laits à Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent les Shiloh et que le peuple lui obéisse. Elle a souffert. Elle a eu l'impression que Dieu était injuste. Elle a eu l'impression que Dieu n'était que pour l'autre. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était enceinte de Judas. Elle était enceinte de Lévi. Elle était enceinte de la tribu clairvoyante. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, c'est aussi le Dieu de Léa. Et quand Dieu fait des choses pour les Léa, il ne dit pas tout au départ. Quelquefois, il s'était. Et même quand il s'était fortement. Plusieurs autres passages nous montrent la primauté de la tribu de Judas. Exode 31, verset 2, nous montre quelqu'un qui a joué un grand rôle dans la vie d'Israël, Betsalel. Betsalel était de la tribu de Judas, donc descendant de Léa. Nombre 10, verset 14, nous montre encore qu'au départ du mont Sinaï, c'est la bannière du camp des fils de Judas qui partit en premier. Juges chapitre 1, verset 1 à 2, et Juges 20, verset 18, la Bible dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui d'entre nous montera les premiers contre les Cananéens? L'Éternel répondit, Judas montera. Judas, descendant de Léa. Dieu sait s'occuper de Léa. Et Léa, dans la gloire, en voyant ces choses, pouvait se dire, je n'ai pas souffert en vain. J'ai pleuré, mais d'autres sont en train de moissonner. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera les premiers pour combattre Benjamin? Et l'Éternel répondit, Judas montera les premiers. Septième et dernière chose, avant que nous puissions passer un petit moment dans la prière, c'est que les Léa finissent la course en ayant l'impression que Dieu a échoué. Mais j'aime bien insister, ce n'est qu'une impression. Les Léa meurent en étant spectatrices de voir la beauté de Rachel, de voir l'amour qu'on accorde à Rachel, de voir finalement Dieu la visiter, mais de voir finalement aussi Rachel commencer à avoir des enfants. De voir combien ses maris s'attachent à l'autre. Et les Léa meurent en se disant, Dieu dans ma vie n'a rien fait. Et ce qui me permet de revenir encore à ce passage glorieux et merveilleux. Hébreux chapitre 11, versets 39 à 40. J'aimerais vous encourager à souligner cela dans vos Bibles. Hébreux 11, 39 à 40. La Bible dit, tout cela, à la foi desquels il avait été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mais j'aime surtout la première phrase du verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour eux. Dieu peut ne pas te donner ce que tu veux, mais il a en vue quelque chose de meilleur, quelque chose de plus intéressant. Mais des fois, ces choses meilleures, il ne nous dit pas. Il ne nous dit pas, voilà ce que je vais te donner. Voilà ce que je veux t'accorder. J'ai parlé avec un ami prédicateur américain. Il a été fils de missionnaire. Il a dit son père est mort à 75 ans. Mais lui, il est né quand son père avait 35 ans. Il dit, dès que j'ai commencé à avoir un peu d'intelligence, mon père a commencé à me rappeler. Dieu m'a dit, j'irai en Corée. Et par moi, un grand mouvement de réveil se passera dans cette nation. Il dit, il répétait cela. Plus tard, quand il a eu 55 ans, il est allé en Corée. Il n'est juste resté que 2 ans. Il a essayé de faire un travail. Et son père lui disait, j'ai vu d'autres faire l'évangélisation. C'était comme s'il faisait la pêche en utilisant les filets. Mais il dit, moi, je n'ai fait que la pêche à la ligne. Il n'a gagné qu'une personne. Et après les 2 ans, quand il est rentré, il avait l'impression qu'il a échoué. Et avant sa mort, il pleurait sur son lit de mort en disant à son fils, Dieu m'a trompé. Dieu m'avait parlé que je serais celui par qui un grand mouvement de réveil va se passer en Corée. Et ses frères me disaient, Roland, tu sais quoi? 15 ans après la mort de mon père, j'arrive en Corée, un pasteur m'invite. Il avait plus de 200 églises. L'assemblée où il se réunissait, un seul dimanche, il se réunissait au moins 120 000. Et le jour où il m'invite pour prêcher, juste avant que je ne prenne la prédication, la parole pour la prédication, il dit, j'aimerais en ce jour rendre gloire à quelqu'un dont Dieu s'est servi du Père pour que je devienne celui que je suis. Il dit, son Père est venu il y a tel nombre d'années prêcher dans cette nation, il semble que j'ai été le seul à être gagné. Mais après lui, regardez tout ce qu'il y a. Ce jeune homme s'est mis à pleurer. Ses pères sont morts en pensant que la prophétie de Dieu ne s'était pas accomplie. Mais la prophétie de Dieu s'est accomplie, non pas au travers de lui directement, mais au travers de quelqu'un que lui, il a gagné. Les Léas, quand elles partent, elles ont l'impression que Dieu a échoué. Mais j'aimerais dire aux Léas, Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Dis avec moi, Dieu n'échoue jamais. Déclare-le encore, Dieu n'échoue jamais. Déclare-le encore, Dieu n'échoue jamais. Dis-le avec moi, Léa cache Issachar. Déclare-le encore avec moi, Léa cache Judas. Déclare-le encore avec moi. Alléluia. Es-tu spectateur, spectatrice? Tu assistes à la visitation de Dieu dans la vie d'autres personnes? Et tu as l'impression que toi, Dieu ne te visite pas? Tu es assis ici ce matin, ici au Alisanga, et tu as l'impression que ton zèle ne paye pas, ta consécration ne paye pas. Tu fais beaucoup, mais en retour, Dieu fait pas ou peu. Quelqu'un qui, comme Léa, veut dire cette fois-ci, je veux le louer. Même quand je ne comprends pas, je veux le louer. Ah, sentez-vous libre de vous mettre debout, de vous mettre à genoux, de vous lever. Cette fois-ci, je vais le louer.
Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.